désert médiatique. Alors, à partir de quand on est un journaliste? Est-ce qu'à partir du moment où on essaie de faire remonter l'info, la synthétiser et la diffuser, on est un journaliste? Ou est-ce que c'est quand on travaille pour un média qui est déjà reconnu qu'on l'est?
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, avec un spécialiste, le tout nappé d'une généreuse couche d'humour ayant reçu le label Zabou Breitman, de la finesse. Zabou qui visiblement saute l'émission du mardi quand il y a GC. Une chose est sûre, aujourd'hui c'est avec une certaine fierté que nous abordons le thème du jour, un phénomène nommé désert médiatique. Quand les médias délaissent les zones rurales et qu'il n'y a plus un seul quotidien, un seul journaliste pour couvrir un événement, que les gens ne vont donc découvrir qu'à travers les on-dit sur Facebook et les inévitables fake news sur X. Le phénomène s'est déjà produit aux États-Unis, peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle Trump a été élu 2 fois. Mais cette désertification journalistique arrive aussi chez nous, en France. Des quotidiens locaux mettent la clé sous la porte chaque année. Beaucoup de ceux qui survivent peinent à payer leurs salariés. Et pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Car, arrivé un jour à Paris d'une planète lointaine nommée Alençon, un super-héros se dresse contre les déserts médiatiques. Son nom, PQR-Man. Son super-pouvoir, nous intéresser à des trucs qu'on n'aurait jamais cru intéressants.
Nous voilà en forêt pour une cueillette aux champignons. Tu sens ça? Ça sent la mousse. Seulement voilà, Libération Champagne vous met en garde. Champignons, méfiez-vous des applications pour smartphones.
Et oui, toutes ces missions ne se sont pas couronnées de succès, mais à chaque fois, il y met du sien, dénichant parfois des quotidiens dont même feu Jean-Pierre Pernaut n'avait jamais entendu parler. Son dernier fiasco, avoir échoué à retrouver Arek, le goéland de compagnie d'Alain, un brestois ornithophile, qui du coup a été obligé de se rabattre sur les mouettes. Alors oui, lutter contre les déserts médiatiques, c'est dur, mais ce n'est pas impossible. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
J'ai même pas les mots.
Et l'ornithophilie, c'est la passion des oiseaux.
Oui, oui Mathieu, ça
bien compris. Mais ne vous planquez pas, ne vous planquez pas.
Mais surtout, on peut embrasser Alain, qui a toujours pas retrouvé Arek.
Malheureusement, on ne peut pas embrasser Arek.
Non, on peut, mais on le cherche toujours. Bonjour, David Médioni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes journaliste, co-directeur de l'Observatoire des médias pour la Fondation Jean Jaurès. Vous avez sorti avant-hier une étude très intéressante qu'on va décrypter ensemble. Vers des déserts médiatiques en France, la démocratie peut-elle survivre sans médias? L'idée, c'est de comprendre le lien entre la consommation des médias des Français et leur attachement à la démocratie. Premier enseignement, les attaques répétées contre le travail journalistique menacent certains territoires de désertification médiatique avec pour conséquence un affaiblissement de l'engagement citoyen. Vous allez nous expliquer tout ça. Juste le temps de vous présenter 2 journalistes qui, si jamais la situation se dégrade et qu'on a vraiment besoin d'eux, que ce soit Montluçon, Vierzon ou Romans-sur-Isère, répondront présents, surtout Manon.
Mais quel enfer!
Non, quel honneur Manon, quel honneur d'aller faire vivre le journalisme et ainsi combattre le phénomène sournois des déserts médiatiques. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, David, elle sait, grâce à cette émission et donc depuis 2024, que Coulommiers n'est pas qu'un fromage à pâte molle, mais aussi une ville bien réelle avec de vrais gens et de vrais trottoirs. Mais c'est tout de même en novice du journalisme qu'elle appelle de plein air qu'elle va nous présenter tout à l'heure sa pièce jointe.
Un média indépendant au Texas dont le cœur de l'offre est l'information locale de sa ville, une réponse face à ces déserts médiatiques de plus en plus présents aux États-Unis.
À vous, David. Sans lui, qui, rappelons-le, scanne chaque après-midi la presse quotidienne régionale dans la deuxième partie de cette émission, à défaut de présenter la revue de presse dans la matinale, qu'ils assument leur choix. On voit là où c'est amené, déclarait-il jeudi dernier en découvrant les audiences du matin avec un rectus rieur et, pour tout dire, assez peu corporate. Sans lui, sans lui, on serait passé à côté d'infos aussi palpitantes que l'histoire dite du faux shérif vrai youtubeur. On n'aurait jamais eu vent de la belle amitié qui unissait Alain à Arek, le goéland borgne. Pire, on serait même probablement mort en bouffant une amanite phalloïde que notre api à champignons aurait confondu avec une chanterelle.
Bref, une boule-mère, là.
Bref, je me suis trompé. Oui, je serais mort.
C'est fou,
aussi.
Ça.
C'est fou. Il faut que je réécoute et je vais podcaster votre chronique.
Demandez au service de le faire. Oui.
Voilà. Sans lui, nous ne sommes rien qu'à y réaliser aussi les micro-trottoirs de Zoom Zoom Zen. Quentin, les passants que vous avez croisés, ils étaient au fait de cette notion de désert médiatique?
Oui, je suis allé voir des gens, des vrais, des gens de région aussi. Comment vous aviez dit déjà quand j'ai proposé cette idée de PQR? Des ploucs, c'est ça, oui, Mathieu, merci. Comment on s'informe quand on vit dans ce qui
n'a aucun sens.
Oui, oui,
pays, dans ce qui peut s'apparenter.
Je vis la peur du temps en Normandie.
Oui, c'est ça. Ouais.
Plein cœur, dans un château entouré de lacs.
avec son personnel.
Mais pas du tout. Mais
qu'est-ce que bon, comment on s'informe quand on vit dans ce qui peut s'apparenter à un désert médiatique? Argentan rentre dedans. Pourquoi oui. l'information locale est un enjeu démocratique? Réponse bah. Dans la prochaine demi-heure.
Il y a l'Orne Hebdo.
C'est l'Orne combattante à Argentan.
Ah, d'accord.
Rien que dans l'Orne, il y a plein de.
Vous n'avez pas fait la couverture encore.
Non.
Vers 16h30, il sera temps de rappeler que même les grands médias ne sont pas infaillibles. Oui, Cyril, sauf Fox News, c'est vrai. Oh. Mais les autres, c'est parfois n'importe quoi. Comme nous le découvrirons dans un Zoom Zoom test consacré aux plus belles bourdes du journalisme, de la fausse interview de PPDA avec Fidel Castro, à la fois où Quentin avait confondu Simone Garnier et Evelyne Leclerc devant Nagui. Juste avant 17h,
oh, c'est moins grave.
Nous accueillerons...
C'est plus drôle.
C'est vrai. Nous accueillerons juste avant 17h Lisa Perriot. Après le journal, restez avec nous et préparez-vous à saliver puisqu'on recevra Glenn Vielle, l'un des chefs stars de Top Chef, qui sort un livre dont même moi je pourrais tirer profit, Cuisine d'un cancre. Mais d'abord, zoom donc sur cette notion de désert médiatique. David Medioni, un petit point sur la méthode. Déjà, comment vous avez réalisé cette étude et auprès de qui?
Alors cette étude, elle a été réalisée auprès de 10 000 Français et c'est une alliance de la Fondation Jean Jaurès, d'une association qui s'appelle Les Relocalisateurs, qui est une association qui vise à relocaliser les investissements publicitaires vis-à-vis des médias locaux, et Showware, qui est une association qui cartographie finalement les territoires. Et là, ils ont cartographié l'implication des médias locaux, le lien avec la démocratie et l'engagement citoyen et la perception de territoire.
Et là donc, ça donne une image assez fine de cette situation.
Une image assez précise et surtout ça objective des notions dont on avait une perception, une intuition à la Fondation Jean Jaurès et finalement ça les a objectivés et ça nous a permis de tirer des conclusions autour des médias locaux.
Lui aussi, avant de s'embourgeoiser et de devenir le rédacteur en chef de cette émission, il a lutté à sa manière contre la désertification médiatique puisqu'il a longtemps été le directeur de la rédaction du prestigieux Ponto Combo Times. Un hebdomadaire qui a sorti des affaires énormes comme le scandale de la piétonnisation de la rue Gambetta, que les écolos voulaient interdire aux véhicules à moteur sous prétexte qu'il y avait une école maternelle. C'est débile, les enfants adorent les motos qui font vroom, écrivait Cyril dans son éditorial En finir avec les Khmers verts.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Je ne me prononce pas, Cyril.
Les enfants adorent les grosses motos.
Oui, Cyril, vous aviez raison, j'ai adoré votre édito. Cyril, de par votre expérience du journalisme local et engagé, vous étiez la personne idéale pour nous raconter les déserts médiatiques, d'où ça sort.
Imaginez, vous habitez une petite ville ou un village, un rond-point occupé, un maire historique en ballotage, une usine qui menace de fermer, un conflit social dans une école, et personne pour raconter ce qui se passe, pas de journaliste, pas de reportage, pas d'enquête locale, juste Facebook et des rumeurs qui circulent de poste en poste sur les réseaux sociaux et entre voisins. Bienvenue dans un désert médiatique, là où l'information locale a disparu. C'est des États-Unis que nous vient cette expression, à cause d'une étude parue au début des années 2010, une étude de l'Université de Caroline du Nord. Son objet, ces zones où les journaux locaux ferment à grande vitesse. Et le phénomène explose. Plus de 1800 comtés se retrouvent sans aucun média pour couvrir la vie politique locale.
Alors pour quel effet, Cyril?
Eh bien, on les voit immédiatement. Taux d'abstention en hausse, polarisation accrue, la démocratie locale devient un terrain vague abandonné. Et résultat, à terme, 2016, élection de Trump, 2024, rebelote, Trump numéro 2. Trump élu notamment par une population désinformée et gavée aux fake news. En France, on a souvent pensé être protégé par la tradition de la presse quotidienne régionale. Mais comme souvent, ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver chez nous. Ici aussi, les rédactions locales ferment les unes après les autres. Certaines communes n'ont plus aucun journaliste pour couvrir un conseil municipal. Et là encore, l'information, entre guillemets, se déplace vers les réseaux sociaux. TikTok, Facebook et WhatsApp deviennent la principale source d'actu locale pour des milliers de personnes. Mais sans journaliste, impossible de vérifier la réalité des faits. Alors d'où ça sort? Les déserts médiatiques, et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. David Medioni, première question simple, est-ce que la France suit la trajectoire américaine en ce qui concerne les déserts médiatiques?
Je dirais qu'on n'en est pas encore là et que c'est aussi une des raisons de cette étude. On a voulu objectiver cette notion-là pour justement vérifier si on était au niveau des États-Unis. Ce qu'on remarque, c'est que 35% des Français ont constaté la disparition d'un média local dans leur territoire et que finalement, moins il y a de médias locaux dans un territoire, plus l'abstention est forte, plus l'engagement citoyen diminue, c'est-à-dire l'engagement citoyen, c'est-à-dire l'engagement dans les associations, l'engagement dans les élections, l'engagement dans l'entraide locale, ça diminue dès qu'il y a de moins de médias locaux. Donc finalement, la démocratie se nourrit de proximité. Et on pourrait se dire que la voie qu'a pris les États-Unis peut venir chez nous. On se souvient dans la période des élections présidentielles américaines de 2024, l'histoire des Haïtiens qui mangent des chats et des chiens à Springfield, en Ohio. Et ben ça, c'est sorti d'une page Facebook, d'un groupe Facebook local. Et ensuite, ça a été repris par des leaders de la complosphère américaine, puis par Jed Evans.
Et ce n'est jamais passé par un journal local.
C'est jamais passé par un journal local.
Il n'y a pas eu de vérification, exactement. Évidemment. Il y a un chiffre quand même qui est dans votre étude qui est assez rassurant. Seuls 6% des Français déclarent ne pas utiliser de médias pour s'informer ou restent carrément à l'écart de l'actualité. Pour vous, ce chiffre, il est rassurant ou inquiétant ?
Il est dans une forme d'entre-deux, c'est-à-dire que à la fois c'est rassurant de se dire que les Français utilisent des médias pour s'informer, mais en même temps c'est 65% d'entre eux qui utilisent des médias sociaux, des réseaux sociaux.
Ah oui,
donc
ça,
c'est
ça
quand même aussi,
dans
c'est quand même exactement.
Ouais, ouais,
et ensuite ça résonne pas totalement avec d'autres chiffres que nous on avait objectivés à la Fondation Jean Jaurès sur l'exode informationnel, qui était de dire que finalement on était plutôt autour de 25-30% des Français qui avaient déclaré sortir de l'information, quoi, s'exiler vraiment
ça,
sur des terres informationnelles différentes.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Bientôt autant de déserts médiatiques que de déserts médicaux en France. C'est la question qu'on pose cet après-midi à David Médioni, co-directeur de l'Observatoire des médias pour la Fondation Jean Jaurès, coordinateur de l'enquête Vers des déserts médiatiques en France. La démocratie peut-elle survivre sans médias ? David, on faisait le lien entre faible consommation d'informations et abstention. Vous décrivez aussi le phénomène inverse. Ceux qui consomment fortement des médias locaux sont deux fois plus impliqués dans la vie communale que ceux qui n'en consomment pas. C'est parce qu'ils sont impliqués qu'ils s'intéressent à l'actualité locale ou c'est l'inverse ?
Je pense que c'est parce qu'ils consultent des médias locaux que ça crée du lien, ça crée de la démocratie et finalement ça permet de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. C'est ça aussi un média local, c'est cette histoire de lien, cette histoire de proximité et ça permet de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Dans cette enquête, ce qu'on montre c'est que finalement le média local a participé durant la Troisième République à la constitution, à la création de la République, la Troisième République. Il a participé à tout ça. Et en fait, aujourd'hui, le fait qu'il se retire et qu'il soit de moins en moins présent sur certains territoires participe aussi au délitement de cet idéal républicain et des valeurs républicaines. On remarque que quand on est consommateur de médias locaux, on est beaucoup plus attaché aux valeurs de la République que sont la laïcité, la citoyenneté, la fraternité, le fait d'entraider ses citoyens.
Oui, en fait, tout ça n'est pas inné et on a tendance à l'oublier.
Exactement.
Le républicanisme n'est pas inné, l'attachement à la République non plus, et s'il n'est pas cultivé par des médias locaux, eh ben, il va se déliter petit à petit, c'est un peu l'idée.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que finalement, le fait de consulter des médias locaux, ça permet aussi d'ouvrir ses chakras, d'ouvrir sa façon de concevoir le monde et de mieux comprendre ce que vit son voisin, et finalement, ça permet aussi de comprendre les institutions locales et la façon dont fonctionne la démocratie locale.
Quentin ?
Vous êtes allé vous-même donc, sur le terrain avec l'essayiste Jean-Laurent Casselli, pour vous rendre compte un peu des disparité en termes d'information. Alors, il y a deux villes qui sont sorties, c'est Quimper et Beauvais. Pourquoi ces deux villes, déjà ?
Alors, on a choisi Quimper et Beauvais parce que Quimper apparaissait comme l'un des bons élèves, entre guillemets, de la consommation de médias locaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consommation de médias locaux à Quimper, en Bretagne, parce que finalement, on se rend compte que l'offre de médias, historiquement, elle est importante en Bretagne avec le Télégramme et Ouest France. Il y a une concurrence importante. Et l'offre de médias contribue à la demande d'informations. Ça, c'est un premier
oui, enseignement. Il y a un côté très breton,
exactement.
On s'intéresse aux voisins.
Exactement. Et à Beauvais, le territoire de Beauvais est vraiment entre deux, c'est-à-dire entre l'Île-de-France et le Nord. Il est vraiment perdu entre deux territoires. Et il n'y a pas beaucoup de sentiments d'appartenance. Et c'est là aussi que finalement, les réseaux sociaux comme Facebook, il y a Nationaldo Info, qui est un groupe Facebook, 232 000 followers. Et en fait, c'est aussi un driver d'informations important. Et donc, c'est ça qu'on a voulu montrer avec Jean-Laurent. C'est cette façon de travailler des journalistes qui étaient différentes dans l'Oise et en Bretagne.
Manon.
Vous dites aussi que vous avez eu du mal à trouver quelqu'un qui vous donne le nom d'un média traditionnel ou d'un journaliste de référence. En revanche, on vous cite volontiers des personnalités comme Guillaume Play, on en parlait hors antenne, et son émission Legend. Est-ce que le problème vient du fait que les Français ont du mal aujourd'hui à faire la différence entre de vrais journalistes et des créateurs de contenu ?
Oui, tout à fait. Ça vient aussi de cette idée qui a été longtemps diffusée, qu'on pouvait tous être journalistes, tous être photographes, tous être créateurs de contenu. contenu. Et finalement, le fait que 65% de nos concitoyens s'informent via les réseaux sociaux, c'est ça qui donne la puissance à des médias comme, et à des créateurs de contenu comme Guillaume Play. Mais Guillaume Play, sur le contradictoire et l'information, le contradictoire dans l'information et la façon de présenter les choses, il y a peut-être des choses à redire et des méthodes à revoir. Donc on est quand même assez loin du journalisme déontologique, contradictoire et d'investigation.
Mais est-ce que la presse locale, elle s'adapte suffisamment à cette nouvelle donne? Est-ce qu'elle change sa manière de raconter l'info par rapport justement aux créateurs de contenu et aux rivaux que constituent les réseaux sociaux et notamment Facebook?
Alors évidemment, il faut qu'elle s'adapte. Je crois que la prise de conscience, elle est réelle. C'est-à-dire que dans les rédactions que nous, on a croisées sur le terrain avec Jean-Laurent Casselli, mais aussi dans les enquêtes qu'on a pu faire à travers des coups de téléphone et ainsi de suite, on s'est rendu compte que quand on leur parle de ça, ils sont conscients du problème et ils sont conscients qu'il faut modifier les formats aussi des médias pour retisser le lien au public et arrêter de chercher une audience la plus grande possible et plutôt relationnée avec un public qu'on connaît, avec lequel on discute et avec lequel même on peut élaborer l'information. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est que finalement, ils sont aussi soumis à la société de la communication. C'est-à-dire que les institutions locales, qu'elles soient police, gendarmerie, pompiers, ne communiquent plus avec le médiateur et n'accepte plus la critique, le regard critique. Et en fait, ça crée de la défiance de la part des citoyens qui, eux, voient sur National 2 Info les informations et donc interpellent les journalistes en leur disant « Mais finalement, vous êtes vendus au pouvoir parce que vous ne nous donnez pas l'information. » Donc finalement, il y a plusieurs responsabilités dans tout ça.
Quand plus personne ne s'intéresse à vous, quand vous vivez en Mayenne, à 3 heures de Kangoo, du premier bar dans lequel on ne vous rira pas au nez quand vous demanderez un Hugo Spritz, et quand votre seule idée pour faire le buzz sur Facebook est de vous grimer en shérif américain dans une Renault Nevada déguisée en Ford Mustang, il y a PQR Man. Tout à l'heure, vous nous direz quel article a retenu votre attention dans la presse régionale, mais là, pour l'instant, je ne suis pas déçu, j'en ai une vague idée déjà, mais là, c'est l'heure d'aller parler aux gens dans la rue.
Paris, fin de matinée, un froid glacial me fouette le visage au moment où je croise la route de cet homme qui vient de rouler une cigarette et qui fouille ses poches. Tu veux du feu ?
Oh ouais, j'avais du feu là.
Attends, j'en ai.
Ah, merci.
Allez, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Mon prénom c'est Suleiman.
Vous avez quel âge ?
J'ai 38 ans.
Je lui fais lire la notion qu'on décortique aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Désert médiatique.
C'est quoi ?
C'est qu'il n'y a pas de journaliste dans certains endroits.
C'est dangereux.
Moi, dans ma culture africaine, ce qui ressemblait un peu aux journalistes, c'était les griots publics. C'est ce qui faisait lien entre la société et ramener l'information chez les uns et les autres, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la cité, on va dire. Voilà.
C'est intéressant qu'il parle des griots, ces conteurs musiciens d'Afrique de l'Ouest, dépositaires de la mémoire collective, chargés de transmettre l'histoire, les traditions et les récits d'un peuple. Pour lui, cette notion de désert médiatique est aussi un paradoxe.
Et dans notre époque, parler de désert médiatique, c'est un peu incroyable quand même, avec l'avancée de la technologie, des réseaux sociaux et tout. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de journalistes ou de gens accrédités, voilà, formés, pour pouvoir relayer la bonne information.
Et c'est ça, est-ce que ça peut être dangereux justement pour la vie locale d'avoir personne pour enquêter, remettre en question, soulever des interrogations? Est-ce que ça peut être aussi un risque pour la démocratie?
Ça pourrait soulever plein de problèmes, en fait. Parce que la bonne information, si on ne l'a pas, oui, ça peut favoriser du totalitarisme. Ça peut favoriser pas mal de dysfonctionnements, notamment de la démocratie, comme vous le dites.
Je vous présente maintenant ma deuxième rencontre. Les yeux bleus assortis à sa parka bleu ciel, valise au bout du bras.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom ?
Véronique.
Véronique, vous allez où comme ça ?
Je retourne chez moi, au bord de mer, à Pornichet.
Pornichet ?
Ouais.
On est en Loire-Atlantique ?
Ouais, c'est ça. À 800 mètres de la mer.
Oh bah la belle vie. Elle découvre le mot qui nous intéresse aujourd'hui, Véronique.
Désert médiatique.
Est-ce que Pornichet, c'est un désert médiatique ?
Non. Pour moi, c'est pas ce que j'appelle un désert médiatique. Je m'informe de différentes façons, donc...
Alors, oui, parce que vous faites l'effort de le faire.
Oui, par contre, ouais. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher l'info, ouais. Vous avez raison, il faut aller la chercher l'info.
C'est quoi le nom du journal local à Pornichet ?
Ouest France.
Ouais. Quel quotidien le plus vendu en France ?
Voilà.
Alors que je discute avec Véro, je vois ce jeune homme qui me sourit, intrigué.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Clément.
Et vous nous avez reconnus ?
Absolument, de loin, avec votre petite bonnette rouge.
Vous connaissez l'émission ?
En errant sur les bandes FM... De temps en temps, on a des bonnes surprises.
Eh ben, on prend le compliment, Clément. Il découvre le thème de l'émission du jour.
Désert médiatique.
et donc je suis censé réagir, c'est ça?
Tu viens d'où? T'es d'où?
Là, j'arrive de Guyane à l'instant, là. Ah. Et du coup, désert médiatique? Oui, bah, justement, oui. Bah, en Guyane, il n'y a pas beaucoup de journaux. Ce qui est marrant, c'est que c'est un département français. Mais quand on demande aux gens, personne ne se sent vraiment français. Tout le monde se sent un peu abandonné là-bas. Alors finalement, on suit les actualités à 8000 km d'ici. Enfin, du coup, de la Guyane. Et ça paraît complètement hors sol, quoi, complètement déconnecté.
Pourquoi c'est dangereux, selon lui, un désert médiatique?
Bah, c'est dangereux parce qu'il y aura toujours quelqu'un ou des intérêts qui feront en sorte de faire quelque chose de l'information, en tout cas de faire infuser dans la tête des gens quelque chose, des idées, des intérêts économiques ou autres, hein, idéologiques souvent, parce que c'est quand même beaucoup ça en ce moment. C'est l'information au service d'idéologie.
Et si c'est ces idées justement qui infusent dans ces lieux où il n'y a plus vraiment d'informations? Avant de filer, il me confie où il a grandi.
J'ai grandi un peu à la campagne, vers Angoulême, en Charente.
Là-bas, il y a encore un journal local?
Oui, la Charente Libre.
La Charente Libre?
Absolument. Puis moi, je suis en Dordogne maintenant, alors la Dordogne Libre aussi existe. C'est marrant ce que vous dites, parce que ma voisine, elle a plus de 90 ans, elle reçoit le journal tous les jours, et elle en panique parce qu'elle a entendu que la Poste avait envie de réduire les tournées à deux ou à trois jours maximum par semaine, et elle est en panique parce qu'elle n'aura plus son journal du matin, ce qui finalement la tient un petit peu, enfin la connecte au monde extérieur, quoi. Et je crois qu'il y a un peu un truc de cet ordre-là, de ne pas se renfermer sur soi-même dans sa petite vie isolée, individuelle, et de savoir que le monde continue de tourner autour de nous, en fait.
Et oui, parce que dans ces zones où il n'y a plus de journalistes, plus de contradictions, plus de voix pour soulever, vérifier, raconter ce qu'il s'y passe, il ne reste plus que des échos et des certitudes fabriquées, et un territoire qui n'a plus de récit devient un territoire vulnérable, un endroit où l'on perd peu à peu la capacité de comprendre ce qui se joue aussi autour de soi.
Merci Quentin. David Médioni, il a raison Clément, finalement, le petit journal local du matin, anodin d'apparence comme ça, qu'on lit avec un café, c'est ce qui nous connecte finalement à ce qui nous entoure.
Complètement, il a tout à fait raison, c'était très juste ces différents témoignages. Il y a vraiment cette idée qu'on a besoin de proximité, on a besoin de ce média local pour finalement comprendre ce qui se passe autour de nous, et surtout entrer en empathie avec les individus qui composent le territoire dans lequel on vit. Donc il y a vraiment cette dimension-là. Et puis finalement, un média local, ça forme des démocrates aussi. Ça forme des démocrates, ça leur permet de mieux comprendre comment s'organise la vie locale. Et ça leur donne envie aussi parfois de s'engager. Ça, c'est vraiment ce qui a été montré dans l'étude, et je trouve que c'est plein de bon sens, en fait, les réactions des individus que vous avez interrogés.
Vous dites que les médias locaux jouent un rôle d'alerte. Ça veut dire quoi ?
D'alerte dans le sens démocratique, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand ces médias locaux disparaissent, on pourra peut-être en parler, la composition des votes et la façon dont les gens votent dans ces territoires-là est très différente de notre partie de la France. Donc c'est un rôle de médias d'alerte, et puis c'est aussi finalement un rôle critique. Une page Facebook, des informations partagées sur Facebook ne sont pas critiques, ne sont pas passées au tamis du contradictoire. Un média local, ça peut aussi jouer ce rôle d'alerte.
Quand on parle de médias locaux, alors on a cité beaucoup de journaux papier, on peut parler de radio aussi. Il y a une chaîne du groupe qui s'appelle Ici, aujourd'hui, qui fait un travail remarquable, aussi politiquement, pour aller sur place, enregistrer des voix, d'élus, de gens, etc. Il y a d'autres médias que vous avez observés? On a quoi? On a les journaux, la radio?
La télé locale aussi, il y a beaucoup de télé locale, qui a en ce moment une période de difficulté, notamment publicitaire, et qui donc est dans une situation économique très fragile. Et il y a aussi beaucoup de pure players, ça on l'a observé en Bretagne, mais aussi dans d'autres territoires, pure players d'informations qui sont nés finalement de l'envie d'aller mieux raconter le territoire, parce qu'ils trouvaient pas forcément ce qu'ils avaient envie de lire dans le média local, le journal local, et puis ils avaient envie vraiment de raconter autre chose. Donc il y a Mars Actu par exemple, qui est un média d'investigation. Il y a plusieurs médias comme ça. Il y a le média de François Ruffin, dont le nom Fakir, qui est en Picardie. Donc bref, il y a beaucoup de médias aussi de pure players qui se mettent en place et qui essayent de finalement mieux raconter la vie locale et de créer du lien aussi, parce que c'est ça le rôle aussi d'un média local.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il est exigeant et rigide.
Voilà comment je décrirais notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière. Voilà en tout cas comment le décrit Franck Martinet, son ami d'enfance et tenancier de l'établissement libertin Le Donjon de Pont-au-Combeau. Mais voilà, même les plus grands journalistes ont parfois des jours sans. Cyril, c'était le 17 mars 2024, face à celui qui ne s'appelait pas comme il pensait qu'il s'appelait.
Professeur Pierre Ekberg, qui n'a rien
Serge.
À voir avec...
Serge Ekberg.
Serge Ekberg, quel que soit son nom.
En hommage à cette bourde légendaire, jouons avec les plus beaux plantages journalistiques de l'histoire récente, disons donc post-PPDA, c'est le Zoom Zoom Test. Un quiz qui, je le précise... Oui, mais c'est une bonne réponse, Quentin, vous voulez que je vous donne un point
peut-être.
Pour... Ce n'est pas un blind test, Quentin. Un quiz qui, je le précise, ne vise pas à dénigrer les journalistes qui sont peut-être faillibles, mais qui en tout cas ne sont pas aussi cons que ChatGPT, auquel de plus en plus de jeunes ont recours pour s'informer et qui nous a répondu quand on lui a demandé qui était Cyril Lacarrière.
Les sources indiquent que Cyril Lacarrière serait diplômé de Sciences Po Paris et possiblement d'une école de journalisme, mais certains détails varient selon les articles.
Cet emploi du conditionnel est une fourberie à se demander si Quentin n'est pas derrière cette odieuse cabale.
Quelle indignité.
Je dirais même plus, mon bon Cyril, c'est de la connerie artificielle. Mais voilà, le problème, c'est que les vrais journalistes de chair et de sang parfois se trompent. Et pour commencer, direction ici les Moulineaux, chez nos collègues de RFI. Nous sommes en 2020, il faut mettre à jour le système d'exploitation des computers qui, service public oblige, tourne encore sous Windows 95. Mais voilà, les IBM achetés sous Jean-Marie Cavada ont du mal à encaisser la mise à jour. D'après vous, Manon Quentin, que va-t-il alors se passer lors de cette mise à jour ? Le site de RFI va publier par erreur des nécros de gens qui sont hélas bien vivants. Les articles du jour vont être remplacés par l'historique de navigation de la rédaction, hashtag gênance emoji aubergine, où RFI va annoncer la levée du confinement grâce aux découvertes du professeur Raoult.
A, je pense que c'est A.
C.
La levée du confinement, vous en souvenez d'ailleurs, vous étiez sorti dans la rue, fêter ça.
Non, mais c'est A, je m'en rappelle de ça.
Vous êtes sûr de vous à 100%
ouais, Manon. Ça m'arrive, hein.
Bravo,
je joue pas tout au hasard. Hein.
Effectivement, une belle boulette.
J'ai un cerveau.
Puisque cette année-là, j'en avais jamais douté, RFI avait enterré vivante plusieurs personnalités comme Pelé, la reine Elisabeth II, Clint Eastwood, Sophia Loren, Brigitte Bardot ou encore Jean-Paul Belmondo à la décharge de nos confrères.
Presque tous morts.
On notera que depuis, le temps a fait son œuvre, effectivement, et que RFI avait juste un léger temps d'avance. Gênant, mais rappelons-le une fois de plus, car on ne le rappellera jamais assez, moins gênant que l'adieu à Carlos de France Bleu.
Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière... bon courage.
Allez, bon courage, Carlos.
Ça me gêne.
Un poste de journaliste se libérait. Derrière la porte, Quentin grattait déjà avec ses fameuses griffes. Wolverine est son surnom dans les médias. Mais attention,
c'est comme ça que...
Il n'y a pas que celui-là.
Et vous êtes là aujourd'hui. On part aux États-Unis où cet enregistrement pirate de Cyril lors des 50 ans... des 150 ans de Cyril, nous transporte immédiatement. Aux États-Unis donc, où le New York Times, ce torche-cul wokiste qui passe son temps à dire du mal de Donald Trump, a dû se séparer en 2003 du journaliste Jason Blair. D'après vous, pour quelle raison ? Plagiat d'articles et bidonnage de scoops par dizaines, c'est moche. Jason le coquinou était en fait un journaliste infiltré de Fox News qui s'était fait embaucher au Times pour espionner les gauchistes, pas joli joli, où le malicieux Jason s'était fait passer à l'entretien d'embauche pour le neveu de Tony Blair avec une fausse lettre de recommandation de l'ancien premier ministre britannique.
Si ! Je suis devant.
Non.
Vous aviez entendu parler de cette histoire ?
Oui.
Vous l'aviez même couvert, je pense.
Je pense,
oui. Oui, c'est bien. Vous êtes devant. C'était une très mauvaise réponse. Vous avez tenté le coup de l'assurance.
L'aplomb.
C'était la réponse à grosse crise au New York Times qui constitua une équipe spéciale pour recenser tous les faux articles de ce Blair, aboutissant à la démission d'autres journalistes et même d'une partie des dirigeants. Je n'ose pas imaginer ce que deviendra France Inter quand on découvrira que Quentin enregistre tous ses micro-trottoirs depuis Alençon en interviewant ses proches pendant les cousinades lui. Mais plutôt que d'évoquer les petites combines minables de Quentin, restons aux États-Unis pour évoquer ce bastion du journalisme, cette oasis de probité et de rigueur dans le désert médiatique américain, Fox News. Une chaîne qui, et je le pense que vous serez tous d'accord avec moi, si vous êtes blanc, suprémaciste et un peu con, est une chaîne donc connue pour son professionnalisme et surtout le professionnalisme de ses journalistes, neutralité de ses propos et son ouverture au monde. D'ailleurs, c'est grâce à une carte diffusée à l'antenne de Fox News que les téléspectateurs américains ont pu apprendre que la Terre était plate, que la capitale de l'Inde était non pas New Delhi, mais Chisnan City.
Oh non.
Ou que l'Égypte n'était pas en Égypte, mais en Irak.
C'est, je pense que c'est ça.
Ah.
La Terre était plate. Ils ont donné enfin les preuves. On avait effectivement une intuition, mais on n'avait pas les preuves.
Et alors ?
Réponse C, bravo Manon. Oui, selon le service cartographie de Fox News, l'Égypte n'était pas en Égypte, mais en Irak. Oh là là. Oui, ils avaient d'ailleurs mis la musique de Rachida en fond sonore parce que rien n'allait dans leur reportage sur le Proche-Orient. Et terminons,
comme vous, tous les
terminons
jours,
ce ouais. quiz voilà. chez l'ennemi héréditaire. Non pas Europe 1, mais l'Angleterre. Chez nos confrères d'ITV, première chaîne commerciale d'outre-Manche, à l'origine d'un sacré bad buzz en 2011, un reportage sur la fourniture d'armes à l'IRA par la Libye de Kadhafi. D'après vous, qu'ont osé nos confrères anglais? Ils ont confondu Kadhafi et Ben Laden dans le reportage. Ils ont utilisé des animations du jeu Call of Duty en les faisant passer pour des attaques de l'IRA. Où les explosions entendues dans le reportage étaient en fait piquées au film Die Hard avec Bruce Willis.
Mais je suis devant.
Je crois pas.
Alors, c'est arrêtez de dire qui est devant, c'est la
régie. Je fais comme
qui
Quentin maintenant. Parce
effectivement,
que...
il se trouve que c'était vous, Manon.
Parce que c'est toujours elle, c'est facile.
C'est fou.
Et oui. N'importe quoi. Comme
vous allez gagner demain.
À la rédaction. Oupsi. On n'avait pas les images d'illustres, on s'est dit qu'on allait prendre des extraits des cinématiques de Call of Duty et que ça passerait, hélas, pour les documentaristes. It did not pass Scream. Défaite de l'éthique et victoire de Manon Mariani, comme souvent dans le quiz.
Ah, merci. Manon. Merci.
3-0, c'était net.
Vous battrez demain, vous avez raison. Demain, je vais vous battre.
On verra bien.
Vous serez en forme.
Bien. Je pense.
Après les déserts médicaux, gare au désert médiatique. David Medioni, coordinateur de l'enquête qui vient d'être publiée par la Fondation Jean Jaurès, est toujours avec nous. Un point peut-être économique, tout simplement pour expliquer aussi la difficulté des journaux locaux. Aujourd'hui, j'imagine que si vous êtes annonceur, vous avez envie vous allez plutôt payer Google pour être bien référencé que de payer une pub parfois onéreuse dans un journal local qui a moins de lecteurs qu'avant, non ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est un des enjeux et une des solutions peut-être qu'on peut trouver, c'est comment relocaliser les investissements publicitaires. Il y a peut-être un appel à passer aux annonceurs qui est de dire finalement vous avez aussi besoin des médias locaux pour exister, pour faire passer vos messages et que finalement Google ou d'autres plateformes ne sont pas les meilleures pour ça et que si vous voulez conserver un espace démocratique sain, apaisé et non pas polarisé comme il est aujourd'hui, bah, peut-être que vous devez aussi relocaliser, c'est l'objet des relocalisateurs, vos investissements publicitaires via les médias locaux. Je pense que c'est un des messages qu'on avait envie aussi de passer à travers cette étude, ouais, bien
sûr. Il y a aussi, on peut le dire, une petite ruse sur le nombre de lecteurs des journaux locaux, parce que souvent ils affichent le nombre de lecteurs qui n'est pas le nombre de ventes. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a 2 ou 3 personnes dans le foyer ou dans un café qui vont lire le journal. Donc du coup, c'est pas... ils trichent un peu là-dessus, on peut le dire.
Il n'y a pas que les médias locaux qui trichent là-dessus, oui. C'est aussi les médias nationaux. C'est-à-dire que c'est le taux de passage d'un journal qui est le nombre de lecteurs, du coup l'audience qui est comptabilisée plutôt que le nombre de ventes.
Ouais, d'audience plutôt que le nombre de ventes.
La diffusion est beaucoup moins importante. Ouais.
Vous parlez, il y a des expressions que je découvre, vous parlez du sojo. C'est quoi le sojo ? Le journalisme de solution.
Exactement, ouais, le journalisme de solution, bah, c'est l'idée de se dire que finalement, dans les territoires, il y a beaucoup de belles initiatives, de belles choses qui permettent de résoudre des problèmes. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte aussi dans les médias locaux, c'est que finalement, ça permettait d'incarner les problèmes. Parler des problèmes des réfugiés ukrainiens, par exemple, qui venaient en France et qui arrivaient en France de façon, on va dire, didactique sur les chaînes d'information en continu, c'est bien. Mais finalement, le fait de l'illustrer à travers un réfugié ukrainien qui vient dans tel territoire à côté de ses choix, ça permet finalement de montrer que c'est possible et que c'est pas juste une grande peur qui va pas venir pour piquer le travail d'un tel, qu'il y a pas de problème de sécurité et ainsi de suite. Et c'est ça qui permet d'incarner, c'est ça qui permet le média local aussi.
Manon ?
Il faut parler de la place des faits divers pour beaucoup de personnes. Les médias locaux, c'est forcément relié, ou du moins beaucoup, à des faits divers. Pourquoi c'est important dans la relation média-citoyen ?
Le fait divers, c'est finalement ce qui touche toutes les passions de l'être humain, hein, la mort, la jalousie, toutes ces choses-là. Donc c'est normal. C'est historiquement, la presse, elle s'est aussi construite sur le fait divers. Hein, c'est quelque chose d'important dans la presse. Ce qui ressort aussi de cette étude, c'est que le fait divers est un driver d'audience pour les médias locaux comme pour les pages Facebook en question. Quand on est allé dans l'Oise avec Jean-Laurent Casselli, il y avait ce mythe de la camionnette blanche. C'était cette idée que finalement il y avait des enfants qui avaient été enlevés par une camionnette blanche, il y avait une main courante qui avait été déposée, et donc finalement il y avait cette idée que la camionnette blanche ratonnait des enfants et ainsi de suite. Bon, finalement les journalistes ont enquêté, mais ça a été propulsé sur Facebook, mais en même temps ça fait peur. Donc c'est pour ça que ça fonctionne.
C'est
la peur, c'est vendeur, et donc c'est pour ça que ça nous attire finalement, nous, êtres humains. C'est des passions tristes un peu quelque part, mais c'est aussi pour ça que ça nous attire et que ça nous intéresse aussi quelque part.
Quentin ? Est-ce qu'on peut reparler de l'enjeu démocratique ? Est-ce que vous avez observé des conséquences sur les territoires où il y a plus ou moins de médias locaux sur le vote ? Est-ce qu'on vote différemment en fonction de comment on est informé ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une corrélation qu'on a mis en lumière. La première chose qu'il faut retenir, c'est que moins il y a de médias locaux sur un territoire, plus il y a d'abstention. Ça, c'est la première chose. C'est l'abstention qui gagne en premier lieu. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un calcul qui permet de voir que s'il y a 20 points de moins de médias locaux, de présence de médias locaux dans les territoires, il y a 7% d'abstention en plus. Donc c'est quand même colossal. Voilà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce qui nous a beaucoup frappé quand on a reçu les cartes de cette étude et de la façon dont les déserts médiatiques se positionnaient en France, c'est que finalement, c'est dans la grande diagonale du vide. Hein, cette diagonale du vide qui va du nord en passant par la Bourgogne et ensuite en descendant vers l'Auvergne et le centre de la France. Il y a vraiment cette diagonale du vide dans lequel il y a des déserts médiatiques et dans lequel, clairement, le vote Rassemblement National s'est installé et aujourd'hui prospère énormément sur ce sentiment d'abandon, sur ce sentiment de plus faire partie d'un territoire qui ne fait plus partie du jeu national global. Hein. C'est vraiment cette idée que quand un média local disparaît, finalement, ça veut dire que le territoire ne fait plus partie de la photo. C'est comme quand le médecin n'est plus là, comme quand le bus scolaire ne s'arrête plus à toutes les villes, à tous les villages, et ainsi de suite. Il y a vraiment cette dimension-là. Donc ça, c'est le vote Rassemblement National. Et dans certaines banlieues, on observe que c'est le LFI qui prend fait et cause sur des médias qui disparaissent, et on voit que le vote LFI monte aussi.
Donc les extrêmes prospèrent sur les déserts médiatiques.
Exactement.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de déballer la pièce jointe de Manon Mariani.
Un média aujourd'hui s'appelle El Paso Matters, à El Paso au Texas, à quelques mètres de la frontière mexicaine. Ce média local s'impose aujourd'hui comme un rempart à ce fameux désert informationnel dont on a parlé. Un site d'information à but non lucratif lancé par le journaliste Bob Moore, ancien pilier du El Paso Times. Autrefois, ce quotidien était une institution dans la région avec près de 80 journalistes. Il n'en compte aujourd'hui plus qu'une poignée. Sa rédaction a disparu, l'imprimerie est maintenant de l'autre côté de la frontière, à Juarez, au Mexique, et les locaux historiques du journal ont été rachetés par la municipalité. Et c'est justement pour continuer à enquêter et raconter, documenter ce qui se déroule dans la ville d'El Paso que Bob Moore a décidé de créer El Paso Matters. Il lance ce site en 2020, il est gratuit et financé par des fondations privées qui sont préoccupées par la santé démocratique du pays, comme la Knight Foundation ou la Ford Foundation, qui consacrent environ 150 millions de dollars par an au journalisme indépendant.
Et il parle de quoi alors ?
Eh bien, il couvre, il enquête sur les affaires locales, il suit de près les politiques migratoires aussi et les procédures judiciaires qui agitent la région. Aujourd'hui, le site compte 10 journalistes, plus que le quotidien centenaire de la ville. Il est aussi présent sur les réseaux comme TikTok. Des jeunes reporters s'engagent et dénoncent ce qu'il se passe dans leur ville. Par exemple, dernièrement, le gouverneur du Texas a dit vouloir supprimer tous les marquages routiers véhiculant des messages sociaux, politiques ou idéologiques. Il a déclaré que les villes qui ne s'y conformaient pas pourraient perdre leur financement de l'État et du gouvernement fédéral. Autrement dit, il veut enlever les arcs-en-ciel du drapeau LGBTQIA+, qui se trouvent sur certains passages piétons, comme ici dans le Marais à Paris. La journaliste de El Paso Matters couvre l'histoire sur TikTok en appelant les habitants de sa ville à faire barrage en allant filmer ces drapeaux présents sur les sols d'El Paso. Ces sites sont devenus de vraies sources d'informations importantes aux États-Unis, où il ne reste qu'un seul journal local dans la moitié des comtés américains. Il y a tellement peu d'effectifs que les télévisions locales se contentent de reprendre maintenant les conférences de presse. Des manques qui permettent, évidemment, l'a dit, aux sites complotistes de gagner du terrain.
Merci Manon. David Medioni, comment ça se passe effectivement aux États-Unis ? C'est encore pire depuis la réélection de Trump pour les médias locaux ?
Oui, tout à fait. Il y a plus de 1000 journaux qui ont disparu aux États-Unis dans les dernières années. C'est quelque chose de colossal. Et surtout, c'est l'étude qui était citée par Cyril Lacarrière tout à l'heure en début d'émission. Il y a vraiment cette idée que quand les médias locaux ont disparu aux États-Unis dans certains territoires, le vote pour Trump a été largement favorisé par cette disparition. Et moi, vraiment, cet exemple des Haïtiens qui mangent les chats et les chiens en Ohio, moi, c'est quelque chose qui démontre finalement la nocivité et la perte de sens qu'il peut y avoir quand un média local disparaît.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Amis auditeurs, auditrices qui nous écoutez depuis un désert médiatique, sachez qu'on serait ravis de vous aider en vous envoyant gratuitement Pierre Courade. On lui prendrait un aller simple, bien sûr. Alors évidemment, son expertise, son sens de la nuance nous manquerait. Mais je crois que ce qui nous manquerait le plus, c'est sa capacité à choisir ses combats, à frapper là où ça fait mal. Cette semaine, par exemple, entre les crimes d'intimidation à Marseille, le scandale Chine, les sujets d'indignation ne manquaient pas. Eh bien, hier soir, sur Instagram, Pierre a publié cette story coup de poing. La capture d'écran d'une alerte Jean-Marc Morandini. Surprise, Jean-Louis et Isabelle de L'Amour est dans le Pré 2025 annoncent leur rupture. Et ce commentaire rageur de Pierre, merci pour le spoiler, émoji petit bonhomme fronce les yeux. Pierre, en attendant votre aller simple pour Périgueux, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur les déserts médiatiques en une minute chrono.
C'était une alerte pure média, je précise. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on a parlé des déserts médiatiques avec notre invité David Medioni, co-directeur de l'Observatoire des médias à la Fondation Jean Jaurès. Il a enquêté sur un phénomène qui menace la presse quotidienne régionale, non pas la chronique PQR de Quentin, lui, mais la disparition des rédactions locales. Plusieurs éléments pour expliquer cette situation. D'abord l'argent, hein. L'info ça coûte cher et les annonceurs doivent faire des choix. La défiance ensuite des citoyens vis-à-vis des journalistes, d'autant qu'avec les réseaux sociaux tout le monde a l'impression de faire du journalisme. On se détourne alors de la presse traditionnelle et on tombe dans les fake news. Enfin le retard des rédactions locales, hein, pour s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Conséquence, David Medioni a constaté que les territoires où disparaissent les titres de presse sont aussi ceux où l'abstention progresse et où l'engagement citoyen diminue. Pour lui, c'est clair, la démocratie se nourrit de proximité. Le lien du journal permet de s'intéresser à l'autre, à ce qui se passe autour de soi. Notre invité nous a aussi rappelé que le média local a participé à la construction républicaine de la France. Sa disparition signe le recul de notre pacte citoyen. Pour preuve, une corrélation existe entre désert médiatique et le vote populiste. Confronter les points de vue grâce à une info vérifiée au plus près du terrain, c'est la base de la démocratie.
David, il a bien résumé ?
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Il a bien bossé.
On peut vous le donner aussi à la Fondation Jean Jaurès. Si
j'en parlerai à qui de droit.
Voilà. Pour terminer, on reçoit aujourd'hui Stéphanie Bern. Vous êtes historienne indépendante, créatrice du mouvement Pour une vraie vérité vraie. Et vous venez nous apprendre à nous informer en 2025.
Tout à fait, Mathieu Noël. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier car depuis mon précédent passage, j'ai reçu énormément de messages de soutien.
Oui, c'est vrai ça ?
Non, c'est faux, évidemment. Nous sommes à la radio, c'est le premier message que je voulais faire passer à nos auditeurs. Tout ce qu'on vous raconte à la radio, c'est faux. Voilà, une vague de froid déferle sur la France, c'est faux. L'Assemblée nationale vote un nouveau budget, c'est faux. Par contre, Stéphanie Bern, c'est moi. Ah, voilà, vous allez me dire encore que je parle vite. Stéphanie Bern, moi-même, déclarée saine d'esprit et enfin autorisée à approcher le domicile de son ex-mari, c'est faux, faux. Tout est faux, archi-faux. Voilà. Je vous le répète, mon collègue David Medioni ne vous l'a pas déjà dit dans son livre, hein, parce que oui, excusez-moi David, je n'ai pas lu votre livre. Tout le monde ici vous dira qu'il est formidable, que c'est extraordinaire, mais tout le monde ici vous ment. On vous ment. On nous ment. Rejoignez la vraie vérité vraie.
Merci Stéphanie, mais expliquez-nous alors comment vous faites, vous, pour bien vous informer.
Laissez-moi rire, Mathieu Noël. J'ai ri. Si vous croyez que je vais tomber dans le piège et répondre à votre question. Et vous, Monsieur Noël, comment vous informez-vous ? Vous lisez différents médias, vous écoutez différents médias, vous recoupez vos sources, vous confrontez vos conclusions avec d'autres journalistes, c'est ça ? Vous allez me dire quoi ? Que vous allez regarder des comptes que vous ne suivez pas normalement, que vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux, juste pour vous faire votre propre avis, pour sortir de votre algorithme et avoir un avis nuancé, complet et pertinent ? Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous endormez tout le monde avec vos méthodes à l'ancienne. Vous êtes mou, votre édito est mou. Mou, mou comme le sol de la lune sur lequel nous n'avons jamais marché. Rejoignez le complot de la vraie vérité vraie.
Mais alors Stéphanie, comment on fait pour distinguer le vrai du faux ?
Écoutez, c'est très très simple. Il suffit d'aller sur Internet, de lancer une vidéo. Par exemple, moi je fais ça sur les Illuminati ou sur les reptiliens ou sur les prétendues études supérieures de journaliste de Manon Mariani. Comme si une femme pouvait faire ça. Bref. Et s'il y a cette musique... c'est que tout ce que vous allez voir est vrai. Par contre, s'il y a cette musique...
Entretien et débouchage sur toute la canalisation. La compagnie des débouchages...
C'est que vous n'avez pas installé de bloqueur de publicité.
On embrasse notre ancien sponsor. Stéphanie, à vous écouter, on ne peut plus croire grand-chose alors.
Bah, bien sûr que non. En fait, tant que les médias recevront des journalistes comme complaisants comme vous, David Medioni, plutôt que moi, Stéphanie Bern, qui détient la vraie vérité vraie, mais moi, on ne m'invite nulle part. Précisément pourquoi ? Parce que je sais tout. Et que là, ça effraie. Les puissants.
Cinglés. Enfin, pour toi, quand même, à une heure de grande écoute.
Oui, bon, et calmez-vous, Mathieu Noël, on est jeudi, 16h30. Hein, à part deux intermittents, trois fumeurs de joint au RSA et des quatre mamans qui sont en train de. Qui sont en pleine dépression, en train d'attendre leurs enfants à la sortie de l'école, personne ne nous écoute.
Non, il y a aussi ma femme.
Oui, je viens de parler des mamans dépressives. Oh. Ils n'écoutent rien, vous voulez me censurer, en fait, c'est ça, je connais vos méthodes, hein, vous savez. De toute façon, à chaque fois, au moindre propos, un tantinet soit peu polémique que je pourrais dire, vous allez me couper.
Non, non, Stéphanie, je vous garantis, on ne vous coupera pas.
Ben, très bien. La vérité, alors, de pourquoi on nous ment dans les médias, c'est parce qu'à la radio, il y a de plus en plus d'homosexuels.
France Inter en voiture, sur l'appli Radio France.
J'ai l'impression que j'ai été coupée.
Absolument pas.
D'accord, très bien. Bon, alors, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à... Bah, c'est à vous, vous avez une relance, monsieur Noël.
Ah non, je n'ai pas de relance.
Bah si, normalement, vous devez me dire que je sors un livre, et moi, je dois vous dire, non, je ne suis pas stupide, je ne sors pas des livres. Hein,
mais vous le faites, vous faites aussi bien que moi.
Plus personne ne peut faire votre texte tout seul, monsieur Noël.
Mais enfin, attendez, ça me revient tout de suite, me revient tout d'un coup, vous sortez un livre.
Mais bien sûr que non, je ne sors pas de livre, monsieur Noël. Je ne suis pas complètement stupide, plus personne ne lit. Je sors une cassette vidéo VHS. La vraie vérité vraie, pas la fausse qu'on nous relaye par les médias mainstream.
Plus personne ne possède de magnétoscope.
Ah bah voilà, plus personne, évidemment, comme de par hasard.
Merci Stéphanie, merci.
Censurateur.
Merci, merci beaucoup Stéphanie et surtout merci Lisa Perriot. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et sur scène les mercredis à Paris à la Nouvelle Scène. Et si vous êtes chanceux comme Manon, Quentin et Cyril hier soir, vous y serez avec un groupe qui termine son séminaire et commente tout ce qui se passe sur scène. Un régal.
Un bonheur.
Merci David Médioni de nous avoir alerté sur ce phénomène des déserts médiatiques. Je rappelle votre étude qui vient de paraître, Vers des déserts médiatiques en France, la démocratie peut-elle survivre sans médias? Ma réponse, non, mais après ça m'arrange aussi.
Zoom Zoom Zen.